Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était hier entre 10h et 18h, la traditionnelle journée annuelle sans voiture à Paris, sauf que cette fois-ci, elle a été étendue à tout le territoire de la capitale, mis à part les bois et le boulevard périphérique, le boulevard autoroutier qui ceinture Paris, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale française. Le but, c'était de donner à réfléchir dans un débat qui, ces dernières semaines, a pris une tournure parfois passionnée dans la capitale, chacun brandissant des arguments, parfois à la limite de l'anathème. Mais la question est posée, car Paris n'est pas la seule à se lancer dans une réflexion sur la mobilité et les déplacements urbains. Oslo, Copenhague, Vancouver, Londres se demandent comment partager l'espace. Des villes sans voiture sont-elles possibles? C'est la question du jour. Et pour y répondre, nous recevons deux invités dans ce studio. Cécile Maisonneuve, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la Fabrique de la Cité, c'est un groupe de réflexion consacré aux villes de demain. Et Mathieu Flonneau, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire urbaine et de l'histoire des mobilités, auteur de « L'automobile au temps des Trente Glorieuses », c'est aux nouvelles éditions Loubatière, ou encore co-auteur de « Choc de mobilité » aux éditions Descartes. Alors d'abord, un point sur cette journée d'hier. Plus que de journée sans voiture, il vaut mieux parler d'ailleurs de journée avec moins de voitures, puisque les taxis, VTC, véhicules d'urgence et même quelques voitures particulières dans des cas précis étaient autorisées à circuler. Pour le reste, 54 infractions ont été relevées, 5 procès-verbaux ont été dressés, plusieurs explications possibles. Soit les Parisiens ont fait preuve d'un civisme qu'on ne leur connaissait pas, soit les pouvoirs publics ont fait plutôt dans la pédagogie. Alors première question, est-ce que cette journée sans voiture prouve que l'on en a encore besoin, Cécile Maisonneuve?
Écoutez, ce qu'on peut dire déjà, c'est que généralement, quand on parle de la ville sans voiture, on parle d'un objet restreint, on parle de l'hypercentre. Il faut bien s'en rappeler, on parle pas de toute la ville. Quand on est à Londres, on parle pas du Grand Londres. Quand on est à Paris, on parle pas de la Petite Couronne ou de la Grande Banlieue. Et ça, c'est pareil dans toutes les villes. Deuxième point, vous l'avez dit, ça circule quand même, parce qu'on oublie généralement qu'il y a la mobilité des personnes, il y a aussi la mobilité des biens. Et il faut pas oublier que jusqu'à 30% de ce qui roule dans nos villes, ça transporte, c'est fait pour transporter des biens, c'est fait pour nourrir, alimenter la ville.
Des livraisons, en
quelque exactement. Voilà. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter, vu l'évolution de nos habitudes en matière de consommation. Donc je pense qu'il faut bien poser le sujet, on parle bien de l'hypercentre urbain, et quand on parle de mobilité, n'oublions jamais la mobilité des biens.
Alors oui, Paris Intramuros, sur laquelle cette opération a été menée, c'est 1 200 000 habitants, et l'agglomération parisienne, c'est 12 millions, hein, pour bien poser les choses. Mathieu Flonneau, on a encore besoin des voitures, manifestement, hein, puisque même une journée sans voiture, on en a besoin.
Oui, mais c'est une évidence. Et puis, c'est pas une journée de carnaval, un dimanche, qui inverse les valeurs à un moment de la semaine bien précis, à un moment où, effectivement, la pédagogie est nécessaire, et ça a été pratiqué. Mais c'est anecdotique. Si on l'adosse à la réflexion sur les mobilités, le gouvernement a lancé quelque chose de plus sérieux, me semble-t-il, des assises de la mobilité, dans lesquelles, eh bien, vous voulez parler de la voiture, eh bien, la voiture a sa place probablement ailleurs que dans des zones d'impertinence comme les hypercentres-villes, en effet. Mais la voiture, il va falloir composer avec elle. Elle va changer, elle change. C'est sa vision archaïque qui est archaïque, précisément, et ce point-là mérite d'être souligné.
Alors, les problématiques sont différentes selon les villes, Cécile Maisonneuve. Certaines ont des transports en commun, d'autres pas. On peut penser, par exemple, à des villes surembouteillées en Afrique. D'autres sont conçues pour l'automobile aux États-Unis, dans le Golfe Persique. D'autres pas. C'est le cas de Paris. Hein. Paris Intramuros, ça a été conçu avant l'explosion de l'automobile par le baron Haussmann. C'est des questions qui sont des problématiques qui sont différentes selon les villes.
Les problématiques sont différentes, mais fondamentalement, quand vous êtes une ville, vous avez un sujet, c'est comment on permet aux gens de se déplacer. La ville, le sujet, c'est pas de déplacer des voitures, des bus ou que sais-je. Le but, c'est de permettre à chacun de se déplacer selon ses besoins. C'est-à-dire, je vais faire mes courses, j'ai besoin de me déplacer selon telle modalité. Je vais au travail, c'est un autre besoin. Je suis un touriste, c'est un autre besoin. Et ça, toutes les villes doivent répondre à cette problématique. J'allais dire, elles ont un peu toutes la même équation. Le sujet, c'est quoi? C'est que on va vivre dans des villes de plus en plus denses. Pourquoi dans des villes de plus en plus dense? Parce que plus la ville est dense, moins elle consomme d'énergie. On a des appartements plus petits et dans une ville plus dense, on utilise moins sa voiture. Donc, la question dans une ville plus dense, comment vous permettez aux gens de continuer de se déplacer de manière fluide? Ça, c'est l'équation qu'il va falloir résoudre. Et finalement, qu'on soit à Paris, à Londres, à Oslo, à Boston ou à Los Angeles, c'est la même équation à résoudre. Après, les réponses vont être différentes parce qu'il y a des cultures urbaines différentes, parce qu'il y a des cultures politiques aussi. Quand vous êtes dans un pays nordique avec une forte culture du consensus, ça se passe pas pareil que dans un pays où la culture est plus antagonistique. Il y a des gouvernances différentes aussi. Je pense que c'est une vraie question qu'il faut poser quand on compare Londres, Paris, Berlin ou Boston, que sais-je.
Le grand Londres, le grand Paris, c'est des entités qui fonctionnent complètement différemment.
Exactement.
Mathieu Flonneau,
Je reprendrai quand même le point que vous soulignez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, le Paris haussmannien est conçu avant l'automobile. Mais il y a tout un storytelling de circonstances qui vise à simplifier les choses et à dire que finalement l'automobile s'est imposé à Paris, a été imposé. Non, l'histoire de l'automobile à Paris est centenaire. L'histoire de l'automobile à Paris, c'est un siècle d'amalgame, c'est un siècle d'accommodement, c'est un siècle de désir pour l'automobile. À partir du moment où effectivement elle devient triomphante, à partir du moment où elle devient véritablement démocratisée, et là on parle des années 1960, 1970, elle devient un problème en termes de congestion. Mais le problème, il est surtout repoussé, et là on croise les questions de gouvernance au premier chef, puisque Paris est prisonnier d'une gouvernance qui date du baron Haussmann.
Absolument.
De 1860. Et donc le raisonnement en termes de Greater
parisien.
London, le Greater London ou le Gross Berlin n'a rien à voir de ce point de vue-là. Et donc réfléchissons déjà à inverser la problématique. Et naturellement, on s'y essaye, mais avec plus ou moins de bonheur au chapitre des transports. Parce que ce qui l'emporte, c'est une culture plurielle de transport en région parisienne. Et l'automobile a sa place dans ce jeu. Elle se l'est construite et on lui a accordé. Et il est évidemment très difficile aujourd'hui, en dehors de postures autoritaires et de postures simplistes, et encore une fois, là je pense qu'il y a des limites à des opérations d'écologie spectacle comme on en a vécu une hier, il y a une accusation et une mise en une culpabilisation des automobilistes qui sont essentialisées, qui est très réductrice du débat. Et pour étudier la question depuis plus de 20 ans, je constate plutôt une régression de la connaissance sur le sujet plutôt qu'un accroissement de cette sérénité souhaitée.
Quand vous parlez de culture de l'automobile, on va le rappeler, il y a eu pendant des années et des années des usines d'automobiles dans Paris intramuros. On parle pas de Bianco, on parle des usines Citroën, des usines Panhard, ça a existé depuis quasiment que l'automobile existe.
Mais vous touchez le point qui est très sensible. J'ai publié un essai qui s'appelle L'autorefoulement et ses limites. Bah évidemment, on peut refouler l'automobile tant qu'elle n'est plus produite par des cols bleus dans la ville. Et donc c'est toute une sociologie urbaine qui change également. C'est-à-dire que pendant un temps, eh bien, on avait besoin de cette automobile. Alors je suis bien conscient comme historien qu'on écrit l'histoire, chaque époque écrit l'histoire dont elle a besoin. Mais il ne faut pas réécrire de façon nihiliste et négationniste l'histoire.
Cécile Maisonneuve, on refoule l'automobile dans Paris ? Il y a quelque chose de psychanalytique ?
Je pense que il y a un mot important qui a été prononcé par Mathieu Flonneau, c'est le mot simplisme. Quand on veut agir, penser la mobilité, il faut accepter, il faut même embrasser la complexité. Il faut l'accepter parce que la mobilité ne peut se résoudre ni par des anachronismes, il est vrai, ni par des anathèmes. Et de même que faut quand même se rappeler que les villes n'ont pas été conçues pour le tout automobile, c'est à la même période, et ça Mathieu Flonneau en parlerait beaucoup mieux que moi, qu'on a à la fois conçu les systèmes de transport de masse et, soi-disant, la ville du tout automobile. Et de même, aujourd'hui, il faut apprendre à penser ces différents modes de transport. La question, quand vous y réfléchissez, qu'est-ce qui circule sur l'espace public ? Il y a plus d'une trentaine de modes de transport. Si vous allez du roller, la trottinette à pied, la réalité de l'espace public est une réalité plurielle. Parmi ces objets, il y a l'objet automobile qui dépasse de loin le sujet de mobilité et qui rejoint à la fois notre conception de la société, qui rejoint d'ailleurs même peut-être la conception du droit du travail. Quand j'étais à Sciences Po, j'avais des cours de droit du travail et on me disait le droit du travail tel qu'il a été conçu en France, c'est le droit Boulogne-Billancourt. C'est-à-dire que ce qui se faisait à la pointe, à la sortie de la guerre en matière de droit du travail.
Ancienne usine, voilà. Renault, pas très loin d'ici, de nos studios d'ailleurs.
C'était la référence. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est un référentiel entier qu'il faut changer quand on veut changer de perspective sur la manière dont on se déplace en ville. Donc il n'y a pas de place pour pour le simplisme. J'allais dire, il n'y a pas de place non plus pour la pensée magique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas non plus croire quand on parle de prospective en matière de mobilité, que le véhicule autonome sera la solution magique. C'est l'autre écueil, je dis, c'est le pendant de l'anachronisme.
Donc justement, quelles sont les conditions pour une ville sans voiture ? D'abord, comme ça, a priori, quand on est un peu béotien, on se dit, il faudrait un réseau de transport en commun performant, qui fonctionne peut-être 24 heures sur 24, soyons fous, et étendu, Mathieu Flonneau, est-ce que c'est le cas actuellement à Paris ou dans d'autres villes? Est-ce que dans les villes où il y a moins de congestion, on a ces réseaux de transport en commun performants?
Écoutez, Paris n'est pas mal doté, loin de là.
Paris intramuros, c'est toujours la même chose.
Hein, c'est toujours la même chose, mais même l'approche banlieue n'est pas mal dotée de ce point de vue-là. Paris a un réseau de transport relativement extraordinaire et peut même se prévaloir d'effets d'aubaine avec des gadgets mobilitaires comme le Vélib ou l'Autolib. J'insiste bien sur la dimension limite de ces modes de transport qui ne sont pas des modes de transport de masse. Et pour en revenir à la problématique automobile, l'automobile n'a jamais été majoritaire dans les déplacements à Paris, et heureusement. Sa vocation n'est pas de l'être. Donc il n'y a jamais eu de tout automobile. Et la période et la génération d'après la Seconde Guerre mondiale, qui avait subi quand même un choc après la crise économique, cette génération a pris à bras-le-corps le problème de la mobilité, qui est un problème de développement social, qui est un problème de mobilité sociale. Également de croissance dans l'échelle sociale.
Est-ce que tout le monde peut venir à Paris, voilà, même si on n'est pas forcément
riche? Alors là, vous posez
riche,
un autre problème. Là, vous posez un autre problème, c'est celui de la démocratisation de l'accès à la cité. Et évidemment, la phase qui s'annonce là est une phase de contraction, une phase de contraction de cet aspect d'accès libre à la cité. Donc, il sera désormais conditionnel à des revenus, et donc la population parisienne change également. La touristification de Paris est une réalité. L'ubérisation jusque dans le tourisme de Paris est une réalité. Il y a des choix politiques profonds dont on ne voit pas encore, je pense, les implications ultimes. C'est-à-dire qu'on est un peu aveugle sur les finalités à l'heure actuelle et les perspectives qui sont données. Alors, la voiture autonome, elle est quand même très lointaine, mais enfin, elle plane là, en apesanteur, sur des choix de mobilité qui pourraient être là demain. Non, ils ne seront pas là demain, ils ne seront pas là demain au même coût, qui est assez dérisoire aujourd'hui, de la mobilité parisienne. Donc si on veut changer radicalement la ville, si on veut adopter le modèle Singapour, si on veut adopter le modèle des hypercentres asiatiques, c'est un choix. Mais il faut le dire clairement aux citoyens.
C'est quoi ce modèle, Cécile Maisonneuve?
C'est un choix où déjà on fait payer très très cher le coût d'usage de la voiture. Et ça, c'est un vrai sujet. Quand vous regardez aujourd'hui, vous comparez la situation en 1970. En 1970, avec une heure de SMIC, on pouvait se payer 2,5 fois moins d'essence. Donc aujourd'hui, le coût d'usage de la voiture a baissé. Si vous ajoutez à cela qu'avec les progrès technologiques, les véhicules hybrides rechargeables qui vont être mis sur le marché d'ici 2020, on va aboutir à des coûts d'usage quasiment équivalents à ceux des transports publics. Donc, du point de vue économique, il faut envoyer un message si on veut réduire l'utilisation de la voiture. C'est ce que fait Singapour, où vous devez payer très très cher pour avoir le droit de circuler en voiture. Mais c'est pas le seul levier. Ça doit s'accompagner d'autres leviers. Vous parliez des transports en commun. Oui, mais dans les années 90 en France, on a construit beaucoup de transports en commun dans tous les centres-villes. Mais en parallèle,
beaucoup de retours du tramway notamment.
Exactement. Mais en parallèle, l'usage de la voiture n'a pas baissé, loin de là. Au contraire. Ce qui se fait dans les villes où vous voulez à la fois baisser l'usage de la voiture et multiplier le recours au transport en commun, il faut aussi travailler sur un espace qui est trop peu traité, je pense, dans nos villes, et qui est un sujet qui revient assez fortement, c'est la qualité des espaces publics. Pour faire autre chose que circuler dans l'espace public, il faut avoir un espace public désirable, où on ait envie de circuler. Et Singapour, aujourd'hui, on construit un mètre carré d'habitation, on construit un mètre carré d'espace vert. C'est-à-dire que c'est une ville qui articule à la fois la politique d'urbanisme, la politique de mobilité et des politiques économiques extrêmement volontaristes. Ça, c'est le modèle Singapour. Ça veut dire faire payer, mais ça veut dire derrière investir énormément et dans la qualité des espaces publics et dans les transports publics.
Ça veut dire qu'on achète clairement très cher le droit d'avoir une voiture et de circuler avec, c'est ça que
ça veut dire. C'est absolument le cas, et j'enchérirais sur un point.
C'est même un petit peu le cas à Londres avec le péage.
Oui, bien sûr. Dans certaines zones, qui est un échec en termes de report modal, parce qu'il y a toujours autant de congestion dans les rues de Londres. Donc ce point-là mérite d'être souligné. Donc c'est pas forcément une réussite. On prendrait plutôt un péage qui réussit à Stockholm. Toujours est-il que la réalité aussi est la suivante, et je voudrais quand même réintroduire cela, parce que vous avez parlé des usines, j'y suis assez attaché, dans le sens où un grand constructeur automobile, son dirigeant Carlos Tavares, est intervenu dans le débat en disant, de toute façon, tout ce que je vais dire à la fois sur la question du diesel et à la fois sur la question de la liberté de circuler, va être jugé périmé parce que je suis représentant d'un lobby.
Un lobby.
Très bien.
Automobile.
Mais acceptons aussi de voir qu'il y a d'autres lobbies. Et peut-être aussi réjouissons-nous d'avoir deux lobbies, deux constructeurs majeurs mondiaux au CAC 40 dans notre nation. ce point-là mérite d'être souligné, parce que je me méfie beaucoup de la vertu, moi, des Hollandais, des Suisses, qui n'ont plus d'industrie automobile, voire qui n'en ont jamais eu de crédible. La France pouvait s'enorgueillir de cela, et pouvait s'enorgueillir, eh bien, de construction majeure, d'un objet qui est loin d'être simplement réductible à une nuisance.
Par quoi on pourrait imaginer remplacer des voitures? On parle souvent du vélo, électrique ou pas. On en a un peu parlé, des voitures autonomes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à terme, les gens ne pourront plus avoir leur propre voiture dans une ville? C'est ça que ça veut dire ou...
Le sujet n'est pas de remplacer. Le sujet, c'est d'articuler les différents modes de transport. Et de ce point de vue-là, là, on se concentre sur l'hypercentre où on a dit l'offre de transport est pléthorique. Mais le vrai sujet aujourd'hui, en France, mais pas qu'en France, dans pas mal de villes, c'est ce que j'appellerais les mobilités orphelines. C'est quand vous devez vous déplacer, et c'est la réalité de la plupart des gens qui travaillent, entre 10 et 100 kilomètres. Là, vous avez une vraie pauvreté d'offres et souvent, vous n'avez d'autre choix que de recourir à la voiture. Ce qu'il faut, c'est organiser ces mobilités orphelines. Ça veut dire organiser les mobilité dans les territoires dits périphériques, mais qui aujourd'hui sont intégrés aux métropoles. C'est-à-dire que les métropoles vont devoir s'atteler à ce qui, jusqu'alors, était le problème de la banlieue. Mmh. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il va falloir être imaginatif. Donc oui, il y a les nouvelles technologies, oui, il peut y avoir le numérique, mais pour l'instant, je vois pas beaucoup de start-up qui s'attaquent au sujet de la mobilité dans les zones peu denses. Le véhicule autonome, oui, peut-être. Le véhicule autonome semi-collectif, peut-être, mais auquel cas la voiture cessera d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire un espace privé pour devenir un espace public. Voilà. Et quand on veut se déplacer en voiture, c'est aussi qu'on veut préserver son espace.
Est-ce
privé.
Que justement, c'est pas la question, est-ce que c'est pas pour cette raison qu'on a un débat si passionné? C'est un espace de liberté individuelle et de confort. Et, enfin, quand on voit toutes les réactions qu'il y a ces dernières semaines sur le sujet la voiture à Paris, ça touche à quelque chose de très intime, manifestement, Mathieu Flonneau.
Non seulement de très intime, mais de surcroît, c'est une projection de soi. C'est effectivement quelque chose qui participe de cette mobilité sociale généralisée, de cette mobilité qui est un droit constitutionnel. On est quand même là devant des éléments qui, parfois par excès de libertarisme, en viennent à étouffer la liberté. Je veux dire excès de libertarisme parce que la diversité des modes qui ont été évoqués tout à l'heure, bon, oui, le solo wheel, à la rigueur, même la politique vélo, qui peut se permettre d'aller au travail en vélo? On parle quand même de modes
grand,
qui
Paris,
sont hyper minoritaires, sur 3%. À l'échelle de la France, les trajets domicile-travail qui s'effectuent à vélo sont de l'ordre de 3%. Est-ce que cette politique-là, dédiée à 3% de la population, doit s'imposer sur l'espace public? Puisque c'est effectivement là la question majeure.
Justement, ouais, aller travailler en vélo, c'est une maison neuve. Si c'est 3% des gens, il y a des gens qui ont besoin d'une voiture toujours, qui travaillent en centre-ville ou qui vont voir leur famille le week-end à la campagne. Ils doivent avoir une voiture, tout simplement.
Quoi. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les distances au-delà des 100 km, vous parlez de la campagne, aller voir sa famille et tout. C'est très couvert et là il y a pas trop de sujets. Ça peut s'appeler du drive-in, ça peut s'appeler du TGV, ça peut s'appeler de l'avion. Là c'est pourvu.
Encore une fois, éventuellement.
Du covoiturage, il y a plein de solutions. Encore une fois, pour moi, les déplacements moins de 10 km, il y a plein de solutions. Au-delà de 100 km, il y a plein de solutions.
C'est entre les deux qu'il
y a un problème. Il faut travailler sur le sujet entre les deux. Et là encore une fois, ce sera pas que du vélo, ce sera pas que de la voiture, ce sera pas que du transport en commun. Il faut articuler la complexité. Ça veut dire ne pas être paresseux. Et moi, quand j'entends aujourd'hui pas mal de débats sur le véhicule autonome, ça va pas venir tout de suite. Et c'est une manière de repousser le problème à plus loin. Mais de ce point de vue-là, les assises de la mobilité qui se tiennent en ce moment visent précisément à traiter ce problème-là. Pour l'instant,
très joli oxymore, les assises de la mobilité.
Magnifique, n'est-ce pas? Assez troublant d'oxymore, d'ailleurs. Mais il va falloir s'y attaquer rapidement. Et ça veut dire aussi financer ces franges de déplacement. Pour l'instant, c'est pas tout à fait résolu.
Mathieu Flonneau, très rapidement, le réseau du Grand Paris Express, est-ce que ça peut régler un certain nombre de problèmes ou ça va peut-être même en créer d'autres?
Écoutez, on parle des mobilités du quotidien, mais on parle aussi quand même quelque chose là qui a pris 10 milliards d'euros de déficit au lendemain de l'annonce de l'obtention des Jeux Olympiques à Paris, qui sont censés, ces grandes annonces, le Grand Paris Express, les Jeux Olympiques, valider le reste de la politique municipale notamment. Donc c'est des vraies questions que vous posez là, et le Grand Paris Express est un problème en soi.
Merci Mathieu Flonneau, merci Cécile Maisonneuve d'avoir participé à ce débat, merci également à Florence Pons qui l'a préparé, à Valentin Vaner qui était à la réalisation. Prochain débat, mercredi, même heure, même endroit. Au revoir.